Pourquoi Afrique ? Le monde aujourd'hui. À Washington, Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, il est 17h30 temps universel, le Monde Aujourd'hui, édition du vendredi 17 novembre 2017, en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir, au Zimbabwe, le chef des anciens combattants demande au président Robert Mugabe de quitter le pouvoir et appelle la population à manifester. Au Kenya, au moins 3 personnes ont été tuées par balle pendant une manifestation interdite de l'opposition à Nairobi. Cameroun, un incendie d'origine accidentelle a ravagé une partie de l'Assemblée nationale. Et puis, une journée africaine au département d'État américain, Rex Tillerson reçoit 37 ministres africains à Washington. Retrouvez Nicolas Pinault à la fin de ce journal pour les sports et Arzuma Compaoré pour la Minute Éco. Mais d'abord, le journal. Nouveau coup de théâtre à Harare ce vendredi matin. Le président Robert Mugabe a fait sa première apparition publique depuis le coup de force de l'armée. Le point avec Raïssa Girondin.
C'est la première apparition de Robert Mugabe depuis une intervention militaire inédite. Il s'est rendu à une université pour assister à une remise de diplôme à Harare. Le président zimbabwéen, que l'on pensait en résidence surveillée, est apparu libre sous les acclamations de la foule. Après le limogeage du vice-président Emmerson Mnangagwa, l'armée est intervenue il y a à peine 3 jours en précisant qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État. Mugabe a été placé en résidence surveillée dans sa maison en banlieue de Harare. Hier, il a pu se rendre à la présidence pour recevoir le chef de l'armée et les émissaires de la SADC. Il a refusé de démissionner et une négociation est en cours pour une transition en douceur. Le Guinéen Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, a dénoncé un coup d'État et exigé le retour à l'ordre constitutionnel. Mais le président ivoirien Alassane Ouattara affirme que M. Mugabe devrait quitter ses fonctions dans la dignité et qu'il est temps pour lui de partir et céder la place à la nouvelle génération.
Et concernant le Zimbabwe toujours, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson s'est exprimé à l'ouverture d'une réunion avec des ministres africains à Washington.
Je sais que nous suivons tous de très près les événements au Zimbabwe et ce sont des préoccupations pour vous tous, ce sont des préoccupations pour nous aussi. Nous devons tous travailler ensemble pour que le gouvernement civil revienne au pouvoir dans ce pays. Bien sûr, en conformité avec la Constitution, le Zimbabwe a une possibilité maintenant de se tracer une nouvelle voie basée sur des élections démocratiques et le respect des droits de l'homme. En fin de compte, c'est le peuple du Zimbabwe qui doit décider de son gouvernement. Lors de nos discussions aujourd'hui, nous aurons une possibilité de discuter de modalités concrètes qui nous permettraient de les aider à opérer cette transition.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson. Après 3 mois de crise politique, la mobilisation ne faiblit pas au Togo. Des milliers d'opposants ont manifesté pour une deuxième journée consécutive. La coalition de 14 partis d'opposition avait appelé à 3 nouvelles journées de mobilisation pour réclamer des réformes institutionnelles et le départ du président Faure Gnassingbé, héritier d'une famille au pouvoir depuis plus de 50 ans. Au Cameroun, 5 étages du bloc administratif de l'Assemblée nationale à Yaoundé, partis en fumée, hier, dans un gigantesque incendie. L'origine est accidentelle, selon les autorités, qui ont toutefois ouvert une enquête. Emmanuel Juntap était sur place ce matin.
Ce vendredi matin, Joseph Banadem, député du Social Democratic Front, SDF, constate qu'il n'a plus de bureau au 4e étage du bloc administratif de l'Assemblée nationale. Mais le député de l'opposition déplore plus encore.
Toute la documentation du SDF à l'Assemblée depuis 22 ans est consommée.
Le cabinet du vice-président de l'Assemblée nationale a été également réduit en cendres, tout comme le bureau du député Gaston Kumba, parlementaire RDPC, parti au pouvoir.
Mon bureau à la Commission des finances était au 7e étage et tout est parti.
La mythique salle de la Commission des finances du budget, où se déroulait depuis des années la défense des projets de budget, a été calcinée. Grégoire Owona, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, cache à peine sa tristesse.
C'est très dommage de voir ce lieu que je qualifierais historique dans cet état.
Certes, l'hémicycle de l'Assemblée nationale a été épargné, mais les députés n'ont pu siéger ce vendredi, probablement dès lundi prochain. Yaoundé, Emmanuel Jemtap, VOA Afrique.
Et toujours concernant le Cameroun, l'ONU se dit particulièrement préoccupée par la recrudescence des violences dans l'Ouest anglophone et offre sa médiation dans la crise. Les Nations Unies rappellent leur attachement à l'intégrité territoriale et à l'unité du Cameroun. 4 militaires ont été tués en moins d'une semaine dans des attaques attribuées par le gouvernement aux séparatistes anglophones. Attaque à Koulbous, dans l'est du Tchad, frontalier avec le Soudan. Après avoir pillé le marché, tué une personne et blessé une autre, les assaillants se sont repliés au Soudan, affirme la force mixte tchado-soudanaise. Les attaques sont fréquentes dans cette zone frontalière où des communautés arabes originaires du Soudan, regroupées en milices armées, traversent régulièrement la frontière avec le Tchad. Le secrétaire d'État américain adjoint John Sullivan termine sa visite au Soudan. Il a appelé ce pays à mettre fin à la démolition d'églises et insinué que la façon dont Khartoum traite la question des droits de l'homme influe sur la nature des relations avec Washington. Dans le centre du Mali, le président du tribunal d'instance de la localité de Niono, Sungalo Kone, a été enlevé par des hommes armés 2 semaines après une embuscade ayant visé un haut magistrat. En Mauritanie, le gouvernement a adopté un projet de loi durcissant la législation contre les auteurs d'apostasie et de blasphème qui seront désormais passibles de la peine de mort sans tenir compte d'un éventuel repentir. C'est ce qu'a indiqué l'agence officielle mauritanienne AMI. Au Kenya, au moins 3 personnes ont été tuées aujourd'hui par balle. La police a violemment réprimé une manifestation interdite de l'opposition à Nairobi. Le point avec Solange Nyamulisa.
3 jeunes manifestants ont été tués par balle, tous touchés au niveau du torse, en 3 lieux différents, dans le quartier de Muturwa, près du centre des affaires de Nairobi. Des milliers de partisans de l'opposition sont descendus dans les rues pour saluer le retour de Raila Odinga après 10 jours aux États-Unis. Après l'accueil à l'aéroport, l'opposition avait prévu un rassemblement en centre-ville. Elle a été interdite par les autorités et a été très vite dispersée par la police. M. Odinga s'est brièvement adressé à la foule, affirmant que ses militants ont vu les signaux qu'une 3e libération va bientôt arriver. Les opposants veulent mobiliser la population pour obtenir l'annulation de la présidentielle du 26 octobre qu'elle a boycottée et l'organisation d'une nouvelle élection. La Cour suprême, qui avait annulé le premier tour, rendra son verdict lundi.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, conflit en Syrie, au moins 10 civils, dont 6 enfants, ont été tués dans la Ghouta orientale par des bombardements du régime qui a intensifié ses attaques dans cette région rebelle près de Damas, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme basé à Londres. En riposte aux bombardements, les insurgés ont tiré des obus sur la capitale syrienne, faisant 3 morts. Toujours d'après l'ONG, 9 personnes, dont 5 enfants, ont péri dans des tirs d'obus et des frappes aériennes du régime contre la ville de Douma. L'Irak a repris en quelques heures Rawa, la toute dernière localité tenue par le groupe État islamique, infligeant une nouvelle défaite à l'organisation djihadiste qui ne contrôle plus que quelques poches désertiques à la frontière syrienne. Et puis, le dirigeant séparatiste catalan Carles Puigdemont est arrivé cet après-midi au palais de justice de Bruxelles. Un juge doit examiner un mandat d'arrêt émis par l'Espagne à son encontre pour avoir organisé le référendum d'indépendance de la Catalogne du 1er octobre. Voilà pour l'actualité. Je rappelle très rapidement les grands titres pour aujourd'hui. Nouveau coup de théâtre à Harare ce vendredi matin. Le président Robert Mugabe a fait sa première apparition publique depuis le coup de force de l'armée. Après 3 mois de crise politique, la mobilisation ne faiblit pas au Togo. Des milliers d'opposants ont manifesté pour une 2e journée consécutive. Au Cameroun, 5 étages du bloc administratif de l'armée nationale à Yaoundé partis en fumée hier dans un gigantesque incendie. L'origine est accidentelle. Toujours concernant le Cameroun, l'ONU se dit particulièrement préoccupée par la recrudescence des violences dans l'ouest anglophone et offre sa médiation dans la crise. Attaque à Koulbous dans l'est du Tchad frontalier avec le Soudan après avoir pillé le marché, tué une personne et blessé une autre. Les assaillants se sont repliés au Soudan, c'est ce qu'affirme la force mixte tchado-soudanaise. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs. Arzuma Compaoré, la Minute Éco.
Le gouvernement gambien veut restructurer sa lourde dette. Selon le ministre des Finances Amadou Sané, la dette gambienne représente actuellement 120% du PIB et nécessite une restructuration pour permettre au pays d'avoir une marge de manœuvre pour lancer un plan de développement. Toujours selon M. Sané, son gouvernement a hérité du régime précédent de Yahya Jammeh d'une dette évaluée à 1 milliard de dollars. Le nouveau président de la Gambie, Adama Barrow, a présenté un plan de développement de 2,4 millions de dollars pour les années 2018 à 2021 qui seront investis dans l'énergie, les infrastructures et l'agriculture. La Guinée lève 20 milliards de dollars d'engagement pour financer son développement. Le plan quinquennal a été présenté au cours d'une rencontre à Paris avec les partenaires publics et privés de la Guinée. Nous voulons montrer qu'il y a une nouvelle Guinée. Les progrès qui ont été faits sont très mal connus, avait lancé Alpha Condé à l'ouverture de la réunion. Malgré la richesse de son sous-sol en bauxite, or, diamant et minerais de fer, selon l'ONU, plus de la moitié de la population guinéenne vit sous le seuil de la pauvreté, avec moins d'un euro par jour. Deux Airbus A330neo pour Air Sénégal. La compagnie nationale de transport aérien a signé jeudi à Dubaï un protocole d'accord portant sur deux A330neo, la nouvelle version du gros porteur best-seller A330. Avec cet accord, Air Sénégal devient la première compagnie africaine à sélectionner ce type d'appareil.
Sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
L'Égyptien Amfami, nommé secrétaire général de la CAF.
Et oui, la Confédération africaine de football annonce la nomination d'Amr Farmi au poste de secrétaire général de l'instance. Il succède ainsi à Hicham El Amrani, le Marocain. Il succède surtout à son père, Mustapha Farmi, qui était secrétaire général de la CAF entre 82 et 2010. Il succède même à son grand-père, qui était le secrétaire général de la CAF entre 1961 et 1982. C'est une affaire de famille. À noter que le jeune dirigeant sera entouré par deux adjoints, en l'occurrence l'ancien international ghanéen, Tony Bafo, chargé du développement et des compétitions, et le Marocain Essadi Kalaoui, chargé de l'administration et des finances.
Les qualifications de la CAN 2019 repoussées de mars à octobre 2018.
La Confédération africaine de football a accepté de déplacer les qualifications de la CAN 2019 de mars à octobre 2018 pour permettre aux 5 équipes du continent qualifiées pour le Mondial en Russie de disputer des matchs amicaux de préparation à cette période. On rappelle que pour le Mondial 2018, l'Afrique sera défendue par le Nigeria, le Sénégal, l'Égypte, la Tunisie et le Maroc.
Pogba, de retour avec Manchester.
Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic et Marcos Rojo, absents de longue date, sont prêts pour jouer demain contre Newcastle lors de la 12e journée de la Première Ligue. C'est ce qu'annonce José Mourinho, l'entraîneur des Red Devils. Le milieu de terrain français de 24 ans, touché aux ischio-jambiers, n'avait plus joué depuis sa sortie à la 18e minute du match de la première journée de la Ligue des Champions contre le FC Bâle. C'était le 12 septembre dernier. Quant à Ibrahimovic, Zlatan, l'attaquant suédois de 36 ans, n'a plus foulé les terrains depuis avril dernier, lorsqu'il s'était rompu les ligaments croisés du genou droit.
Et enfin, la NBA, championnat de basket nord-américain.
Boston a renversé Golden State dans le duel au sommet de la NBA et signé sa 14e victoire de suite, 92-88. Tandis que la star de Houston, James Harden, a submergé Phoenix, 142-116 la victoire, grâce à 48 points de Harden.
Merci Nicolas.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer à votre avis ce vendredi à 18h. Temps universel sur VOA Afrique. tandis qu'Alpha Condé condamne le coup de force Zimbabwe, Alassane Ouattara appelle Robert Mugabe à quitter le pouvoir. À votre avis, Mugabe doit-il partir? Pour participer et témoigner, laissez vos numéros et commentaires sur la promo de notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33. 001 202 205 26 33. À tout à l'heure sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec, deuxième partie d'émission Les Dossiers du Jour. Le point sur la situation au Zimbabwe à présent. Anastasie Kudiesh a joint à Harare John Stewart, directeur d'une ONG de lutte pour les droits de l'homme.
La situation du pays est assez normale, à part la situation politique. Et aujourd'hui, on a eu une réunion de l'Association des vétérans de la guerre. Qui veulent appuyer l'initiative des militaires pour faciliter une transition, mais qui comprend essentiellement la démission de Mugabe. Il semble que ça va s'ajouter à cette démarche des militaires qui, comme disent les militaires, n'est pas un coup d'État, mais c'est une transition aidé par les militaires, en fait, un projet national démocratique.
Sait-on où est Grace Mugabe?
Grace Mugabe est toujours dans le pays, mais elle n'a pas eu on ne l'a pas vu en public depuis que l'armée est arrivée au pouvoir, en fait, qui a pris contrôle au moins de la situation dans les heures de mercredi matin. Monsieur Mugabe, aujourd'hui, en fait, a été permis par les militaires de présider à une séance à l'Université de Zimbabwe pour confier, en fait, qu'est-ce qu'on dit, les baccalauréats aux étudiants. C'était prévu depuis un certain temps et il semble que les militaires ont permis à Mugabe de remplir ses fonctions pour montrer, surtout à l'extérieur, au SADC et à l'Union africaine, que Mugabe était toujours président pour le moment et que les discussions qui touchent à son avenir sont toujours en train de se faire.
Quel avenir pour Monsieur
Mnangagwa? Entre autres, il y a des discussions entre, il semble, Mnangagwa, qui serait probablement un des chefs de la ZANU dans les jours qui viennent, avec les leaders des partis de l'opposition. Des leaders tels que Morgan Tsvangirai du mouvement de changement démocratique. Et donc, il y a la possibilité qu'on va aller vers une autorité nationale de transition. Ça, c'est une deuxième étape. La première étape sera de résoudre la question de, en fait, la démarche dans le ZANU.
C'était John Stewart, directeur de l'ONG de lutte pour les droits de l'homme, Novasc.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Tchad, le directeur de la publication du journal Le Visionnaire, arrêté fin octobre, a finalement été relaxé, remis en liberté cette semaine. Judas Alaoudoum avait été arrêté à la suite d'une plainte du parquet pour la parution d'un article en une consacré à une affaire d'immatriculation d'avion qui défraye la chronique N'Djamena. John Lindon a joint notre confrère Judas Alaoudoum tout juste.
J'ai été arrêté le 17 octobre 2017 pour, disons, entrave à une enquête judiciaire qui concerne donc l'immatriculation de l'avion Airbus au nord du Tchad et qui se retrouverait en Syrie, en zone interdite, en train, disons, de servir les terroristes.
Que révèle cette enquête sur laquelle vous avez travaillé?
Cette enquête sur laquelle nous avons travaillé, disons, il y a un avion qui serait immatriculé au TEP au nom de la compagnie Air Interone dirigée par un certain Mathias Tarsi. Et donc, cet avion immatriculé au Tchad se trouverait en zone interdite en Syrie en train de servir les terroristes. Et ce qui a créé un peu, disons, des démêlés entre la République du Tchad et les États-Unis, ça me dit. Ce qui donc serait à l'origine de la mise du Tchad sur la liste noire des États-Unis, selon plusieurs sources, que cette enquête dirigée par le parquet viserait à savoir la vérité sur cette affaire. Et nous avons également, dans cet article mené des investigations, nous avons mis en cause un certain nombre de personnalités du pays, surtout que les responsables en charge de l'aviation civile ont été limogés à la suite, disons, de cette affaire. Et donc, nous avons mis en cause ces personnes dans l'article. Donc, voilà un peu ce qui était dans l'article. Et nous avons fait un commentaire sur les faits pour un peu dire que le Tchad ne devrait pas, disons, cautionner un tel fait si c'est une liberté de presse dans notre pays.
Est-ce que vous craignez d'être arrêté à nouveau?
Oui, il faut craindre parce que l'épée de Damoclès pèse sur la tête de tout journaliste qui essaye de fouiller davantage sur la gestion du pays avec un critique, tout journaliste qui essaie de finir là, l'épée de Damoclès pèse sur sa tête. Il va donc falloir tirer la sonnette d'alarme, ce qui fait que beaucoup de journalistes, peut-être en ce moment, hésitent à s'aventurer sur ce chemin. Mais puisque lorsqu'on s'engage pour ce métier, je pense qu'on est obligé d'aller quelquefois jusqu'au bout.
Alaoudoum Judas, directeur de la publication du journal Le Visionnaire.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
37 ministres africains des Affaires étrangères réunis aujourd'hui à Washington. Un extrait du discours d'ouverture de Rex Tillerson, le secrétaire d'État américain, devant ses homologues africains.
Notre but aujourd'hui est d'élargir et d'enrichir la relation des États-Unis avec l'Afrique sur trois fronts, la promotion du commerce et de l'investissement, l'encouragement de la bonne gouvernance et la lutte contre le terrorisme. Le commerce et l'investissement des États-Unis et les pays d'Afrique est en croissance. Les exportations américaines vers les pays d'Afrique subsaharienne sont passées de 17 milliards de dollars en 2010 à hauteur de plus de 25 milliards de dollars en 2014. Et l'année passée, les investissements directs américains aux États-Unis sont passés à 57,5 milliards de dollars, le plus haut chiffre de toute l'histoire. Et les États-Unis voient encore plus d'opportunités au cours des années à venir. L'Afrique est un marché croissant. 5 des 10 économies en plus forte croissance du monde sont en Afrique. La dépense des consommateurs devrait dépasser 2,1 milliards de dollars d'ici 2025. D'ici 2030, l'Afrique devrait représenter environ un quart de la main-d'œuvre mondiale et des consommateurs du monde, avec une population de plus de 1,7 milliard. D'ici 2050, la population du continent devrait doubler à hauteur de 2,4 milliards d'habitants, avec 70% de la population en dessous de l'âge de 30 ans. Le défi consiste à préparer l'Afrique avec une bonne éducation pour sa main-d'œuvre et pour préparer le pays, le continent, pour cet avenir. Grâce à Power Africa, par exemple, les États-Unis et ses partenaires ont aidé le secteur privé à créer 82 usines d'électricité en Afrique subsaharienne. Mais la croissance économique et la prospérité durable ne peuvent se développer que lors de bonne gouvernance et comment cela améliore globalement la sécurité.
Rex Tillerson, secrétaire d'État américain. Sur le programme de cette journée africaine au département d'État, c'était donc Idriss Fall, adjoint Brian Neubert, porte-parole du département d'État pour l'Afrique.
Pour la stabilité, il faut de la bonne gouvernance, l'état du droit, il faut l'investissement, il faut développement économique. Donc là, les 60 millions, c'est essentiel, c'est pas suffisant parce qu'il y a d'autres investissements dont les États-Unis également participent dans ces autres domaines de gouvernance et de la prospérité On imagine même que cette urgence, ça va être un projet de long terme dans la région de Sahel.
Et la réunion, il y aura une photo de groupe, elle se termine quand?
Ça va se terminer cet après-midi vers 15h. Et après, il y aura une réception USIP, US Institute of Peace, pour donner une opportunité pour les délégations africaines de circuler avec quelques membres du secteur privé et de la société civile et d'autres VIP pendant qu'ils soient à Washington.
Brian Neubert, porte-parole du département d'État pour l'Afrique. Le livre le plus vendu au monde, la Bible. Mais le saint manuscrit a été interprété de différentes manières par différentes religions. À Washington, le nouveau musée de la Bible, financé par des fonds privés, ouvre ses portes au public samedi, demain donc, situé près du Capitole. Il présente des expositions interactives et des bibles datant de plusieurs siècles. Mais il alimente la controverse. Un reportage de Déborah Bloch, relaté par Nathalie Barge. Sans surprise, le musée de la Bible contient de nombreuses Bibles différentes, des chansons sur la Bible, des textes en hébreu, même des dessins de mode contemporain avec des thèmes bibliques. La Bible est importante car elle aide les gens à cheminer dans la vie, explique Tony Zeiss, directeur exécutif du musée.
Il y a beaucoup à apprendre, nous nous concentrons donc sur son histoire, son récit et son impact. Nous aimerions que les visiteurs s'engagent personnellement à s'impliquer davantage dans ce livre incroyable.
Plus de 100 érudits qui représentent différents points de vue ont conçu les expositions réparties sur plusieurs étages dans le grand bâtiment. Il y a des affichages interactifs pour éduquer tout en divertissant, même dans les ascenseurs. Et vous pouvez vous promener à travers une reconstitution de Nazareth, la ville où Jésus a grandi. Le directeur technique Seth Pollinger explique.
Tout a été étudié pour qu'au cours de la visite, vous puissiez vous retrouver dans les lieux comme il y a 2000 ans.
Le musée a été fondé par Steve Green, de la famille chrétienne évangélique conservatrice, qui possède Hobby Lobby, le plus grand détaillant d'art et d'artisanat privé au monde. Steve Green, le fondateur du musée de la Bible.
Il serait difficile pour nous, en tant que famille, d'essayer de cacher ce que nous croyons. Nous croyons que ce livre est ce qu'il prétend être. Mais notre rôle ici est de présenter les faits de la Bible à travers un regard plutôt journalistique.
Mais c'est discutable selon John Fay, professeur d'histoire au Collège du Messie, qui se considère comme un évangéliste libéral. Jacques Berlinerbro, directeur du programme de civilisation juive à l'université Georgetown, pense que le musée a un agenda caché.
L'idée que le musée n'a pas l'intention de convertir les gens à une lecture particulière de Dieu, de Jésus-Christ, de l'Écriture, est absurde.
Un point de vue partagé par le professeur John Fay.
Même s'ils veulent rester neutres et objectifs, il sera très difficile de présenter la Bible de cette manière, car elle est toujours vraiment ancrée dans une tradition religieuse particulière et leur façon de l'interpréter. Il est difficile de voir cela autrement qu'une tentative d'amener les valeurs chrétiennes, les enseignements bibliques compris par les protestants évangéliques comme les Green, au centre de la vie politique et culturelle des États-Unis.
Le musée contient d'impressionnants artefacts anciens dont certains ont été sortis clandestinement d'Irak et achetés par la famille. Les Greens ont payé une amende de 3 millions de dollars et Richard Green, cofondateur, a dit à la Voix de l'Amérique que le musée était prêt à les retourner dans leur pays d'origine. Quoi qu'il en soit, les responsables du musée encouragent les gens à venir le visiter et à décider eux-mêmes ce qu'ils en pensent.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. À la mise en nom de Lionel Gaïma, Dan Crafton à la console, présentation Morgan Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24/24. Au revoir.